Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Institut des Libertés. On a dit que ça s'appelait Place aux Vieux, du coup, avec Charles Gave, aux vieux, du coup, au singulier, parce que je pense que ça se voit que je n'en fais pas partie pour le moment, bien qu'il faut toujours prévoir ses retraites en ce moment, malgré tout.
Oui, enfin bref.
Nouvelle émission, là c'est la deuxième, dans laquelle on parle plus ou moins d'actualité. Alors j'essaie de
Absolument,
prendre
à bâton rompu.
Voilà, j'essaye de prendre une actualité, si possible, qu'on peut étaler sur plusieurs semaines pour que la vidéo puisse être regardée dans quelques semaines et que l'actualité soit encore pertinente. Donc mon premier sujet, il est relatif à tout ce qui se passe depuis maintenant un petit peu plus d'un an. On vit une récession économique par rapport à ce qu'on vit, les confinements répétés, même couvre-feu, etc. C'est pas forcément excellent pour l'économie. Malgré tout, j'ai l'impression qu'on n'est toujours pas techniquement en crise. Comment ça se fait?
Ben, on n'est pas techniquement en crise parce que l'État français a découvert une source magique d'argent. C'est-à-dire, c'est la BCE qui achète toutes les obligations qu'émet l'État français. Et donc, ben, les restaurants sont payés à 80% de leur chiffre d'affaires, les clubs de sport aussi. Donc, on donne de l'argent aux gens pour qu'il n'y ait pas une baisse du niveau de vie. Alors, en termes économiques, ça veut dire quelque chose. C'est que probablement, l'épargne des Français doit monter comme une fusée. Donc on est en train de mettre de l'argent dans le compte des Français, et ils se retrouvent avec une épargne sur laquelle ils ne comptaient pas. Donc normalement, dans une crise, votre épargne baisse, là, elle est montée. C'est-à-dire que quand l'économie va redémarrer, j'imagine que les gens vont se dire, bon, je recommence à travailler, pour la plupart d'entre eux. Et en plus, j'ai plein d'épargne, donc je vais m'exploser un peu, quoi. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, on n'a pas améliorer ni changer l'appareil de production. Donc si les Français décident tous de changer de voiture, hypothèse d'école, quoi, ben, il est probable qu'ils vont acheter beaucoup de voitures qui viendront de l'étranger. Et donc on va se retrouver avec une économie qui croîtra de façon beaucoup trop forte et des balances commerciales qui vont devenir absolument gigantesques. C'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis. Donc, en plus, la vraie question qui va se poser, c'est si on a payé les gens pendant un an, on n'a rien foutre. Combien d'entre eux vont trouver que c'est bien agréable? Est-ce qu'ils vont vouloir revenir au boulot? S'ils ont une épargne importante, ils vont se dire, bah, je vais continuer à pas me
C'est
lever le matin,
risqué.
quoi. Et dans ce cas-là, ben, notre appareil de production serait encore plus insuffisant pour suivre la demande qui viendrait de France et pour suivre la demande qui viendrait des pays étrangers. Donc, ben, on a distribué de l'argent et beaucoup de gens pensent que l'argent et la richesse, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. La richesse, ça se gagne. L'argent, ça s'imprime. Par exemple, vous ne pouvez pas imprimer du pétrole. C'est bien dommage, mais on ne peut pas imprimer du pétrole.
Ce serait pratique, ouais.
Ce serait pratique. Et donc, si par hasard, avec toutes ces économies qui repartent, le pétrole venait à passer, je sais pas, à monter comme une fusée, parce que ça fait, à cause des économies vertes, ça fait 5 ans que plus personne n'investit dans le pétrole. Et bien à ce moment-là, vous vous retrouvez avec une forte hausse du prix du pétrole qui est équivalente à une hausse des impôts, et une partie de ce pognon sera repris par les fabriques, par les producteurs de pétrole. Donc, on a mis une énorme emplâtre sur une jambe de bois, et maintenant on va voir comment ça va se dénouer.
Et quelles sont les conséquences du fait d'imprimer autant de monnaie? Parce que moi, même si j'étudie pas dans ce domaine, on m'a quand même donné quelques cours d'économie. Ça arrive parfois quand vous êtes à la fac, même en fac de droit.
Vous savez que l'économie a commencé dans les facs de droit, hein, en France. Au départ, c'était une branche du droit, l'économie.
Je savais pas.
Oui, c'est amusant, mais enfin, ça.
Et bref, quand on a des cours d'économie, la première chose qu'on apprend, c'est que quand il y a une inflation de la masse monétaire, bien derrière il y a aussi une inflation des prix, c'est normal. Et là, ce n'est pas le cas.
Alors, c'est une bonne question, mais est-ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'inflation veut dire hausse de la masse monétaire. Donc, on a eu une hausse de la masse monétaire formidable. Dans les années 70, quand ça s'était passé sous M. Giscard d'Estaing et un peu partout en Europe à l'époque, sauf en Allemagne, cette hausse de la masse monétaire s'était transportée dans les prix de détail. qui montait, c'était ce qu'on appelait l'indice des prix du consommateur, ça va, l'indice des prix. Bon, il était monté énormément. Mais l'argent peut aller ailleurs que dans les prix de détail. Si l'argent va surtout à ceux qui en ont déjà, les riches, dans le fond, ils ne vont pas acheter plus de bouffe.
Mmh, ouais.
Ils ne vont pas acheter plus d'essence, vous voyez ce que je veux dire, ils le font déjà. Ça va aller dans la valeur des actifs. La valeur des actifs, c'est-à-dire le prix de l'immobilier et le prix des maisons. Le prix des maisons, le prix de l'immobilier et le prix des actions. Et vous voyez que depuis un certain nombre d'années où on fait ça, ben, le prix de l'immobilier à Paris est devenu intouchable pour à peu près tout le monde. Et quelqu'un de votre âge ne peut pas espérer d'un horizon, sauf si vous avez des biens de famille, ben, vous avez peu de chances d'habiter quand vous aurez femme et enfants à Paris. Quoi. Il faudra que vous alliez quelque part ailleurs, quoi, parce que vous ne pouvez pas vous payer les logements à Paris. Donc vous avez une énorme inflation des actifs. Mais ça peut se porter aussi, cette inflation, sur le taux de change. Je veux dire par là, comme toute l'Europe a payé des gens de rien foutre pendant un an et que l'Asie l'a pas fait, tous ces biens qu'on va acheter avec cet argent qui a été imprimé et qu'on n'a pas gagné, ils vont être fabriqués en Asie. Donc on va devoir acheter beaucoup de monnaie asiatique et vendre beaucoup, encore plus de nos monnaies qui ne valent rien. Et donc la troisième étape, la troisième inflation qu'on va connaître, que j'aurais connue dans ma vie, la première c'était les prix de l'État, et la deuxième c'était les prix des actifs, et cette fois-ci ça va être la hausse des monnaies asiatiques, je pense, qui vont monter énormément. Donc, si j'ose dire, les Français pourront plus aller en Thaïlande, mais les Thaïs pourront venir en France, quoi, visiter Notre-Dame, ou, si elle est rouverte. Ce que je veux dire, c'est ces choses-là, une forte hausse de la masse monétaire, ça entraîne des changements profonds des prix relatifs. Et tout l'art, c'est de savoir... où ça va se porter cette fois-ci, quoi.
Cette économie asiatique, vous en parlez dans votre dernier article, oui. Donc disponible sur le site de l'Institut des Libertés.
Mmh. Et n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge là-haut, vous savez.
Ouais.
À la chaîne.
Ouais, on est bientôt à 100 000 abonnés.
Là, ça change tout quand on est à 100 000, paraît-il.
Il paraît. C'est peut-être une légende, mais je sais pas.
Tu vois, ça marche.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cet article?
Ben oui, si vous voulez, vous savez, il y avait un grand économiste en France qui a eu son heure de gloire, qui s'appelait Jacques Rueff. Rueff, c'était un... Bon, il a sévi dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux premières années de De Gaulle, vous voyez. De la Première Guerre mondiale, voilà, de 1920 à 1958, quoi. Et il avait une phrase qui m'a toujours beaucoup... que j'ai toujours trouvé très belle, il disait... Si on paye, si on subventionne des dépenses qui n'ont pas de rentabilité avec de l'argent qui n'existe pas, ben, il est rare qu'on s'enrichisse. Et donc, ben, nous, on a subventionné des dépenses qui n'ont pas de rentabilité, comme par exemple les éoliennes. Allez. Mmh. Et qui fabrique les éoliennes ? Ben, c'est les Danois et les Chinois. Donc, eux, ils nous vendent des trucs réels, et nous, on leur donne en échange des bouts de papier. Et c'est ce que font les États-Unis aussi. Donc, vous avez maintenant des banques centrales en Asie qui suivent ce qu'on appelle une politique monétaire restrictive, c'est-à-dire qu'elles se disent, le monde va boomer, après ce Covid, il va y avoir un boom, et donc moi, je sers avant le boom, et puis on a des banques centrales en Europe, aux États-Unis, qui disent pas du tout, nous, on va continuer à mettre... de l'essence sur le feu, parce qu'on est obligé de sûr qu'il va crapahuter, quoi. Eh ben, c'est pas tenable. Vous pouvez pas avoir les deux plus grandes banques du monde, la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, plus l'Europe, qui suivent des politiques diamétralement opposées. Il n'y en a pas une. Si elles suivaient la même politique tous les deux, le système navigue. Mais si vous en avez une qui devient très sérieuse et l'autre qui devient complètement folle, ça peut amener dans les économies ce qu'on appelle un risque de discontinuité. C'est-à-dire que d'un seul coup, les Chinois disent « si ça vous fait rien, on ne veut plus être payé dans votre monnaie ». C'est-à-dire que la monnaie européenne devient non convertible, parce que personne n'en veut. C'est ce qui est arrivé à l'Argentine, c'est ce qui est arrivé... Il y a de nombreux exemples où vous arrivez avec votre billet, et puis le type vous dit ben, « vous savez, ça vaut rien votre truc hein. ». Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien, mais il y a un risque de discontinuité, de rupture. Ce qui est en train de se passer, je vais essayer de résumer ça assez rapidement, c'est que depuis 1945, le monde financier marchait avec un seul soleil, qui était le dollar. Et puis tout le monde tournait autour du dollar, comme ça, c'était bien. Mais aujourd'hui, la Chine dit, je n'accepte plus la souveraineté du dollar, puisqu'elle fait n'importe quoi avec sa monnaie, et donc je vais créer un deuxième soleil. Mais vous vous rendez bien compte que ça va rendre le voyage des planètes compliqué, parce que je ne suis pas un grand matheux, mais pour me calculer l'orbite des planètes quand il y a deux soleils, ça devient balèze, quoi. Et donc voilà, on va se retrouver dans un monde où il y aura deux soleils, et alors là, bien malin, c'est ce qui va se passer, quoi.
D'accord. Cette fois-ci, un sujet un petit peu plus politique. On est à un an à peu près des élections présidentielles. Alors, sans faire de prospective très précise sur ce qui va arriver, est-ce que vous pensez, globalement, qu'on a une chance de l'emporter en 2022? Alors,
Qui
quand je dis on, évidemment, je m'attendais à cette question. Alors, je dirais que c'est globalement environ un tiers des Français au moins qui penchent plutôt du côté droit.
Le problème que j'ai avec ça, c'est que droite et gauche, ça veut plus grand chose, ça veut plus dire grand chose, parce que bon, la droite a trahi la nation, la droite officielle en tout cas, et la gauche a trahi le peuple. Alors, j'ai un mal de chien pour savoir pour qui je vais voter, moi, parce que. Et ceux qui défendent soi-disant la nation ne m'éblouissent pas par leur degré de travail ou leur degré de compétence. Et donc, moi, je n'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer, ça va sans dire, parce que le futur est inconnaissable. Mais ce que je sais, c'est ce que je vais faire moi, ce qui est important, c'est que je vais essayer de faire tous mes efforts pour que. Qui que ce soit se présente, prenne l'engagement ferme de donner le référendum d'initiative populaire. Parce que les problèmes qu'on a au peuple, parce que les problèmes que l'on a aujourd'hui sont tellement difficiles à régler. La classe politique s'est révélée totalement incapable de le régler, qu'on parle de l'immigration, qu'on parle de ce qu'on veut, la sécurité publique, tout ce que vous voulez. L'État n'assure plus le domaine régalien. Comme ils n'ont pas le courage de traiter ces problèmes, il faut que renvoyer les problèmes au peuple pour qu'ils tranchent. Je vous donne un exemple. Le tchador, en Suisse. Ils ont dit, ben, le tchador est interdit. Référendum. Il y a 53% des Suisses, je crois, qui ont dit le tchador est interdit. Fin de la discussion. Les tribunaux n'ont plus rien à dire. Le souverain a parlé. Le souverain, c'est le peuple. Donc. Si j'ai été candidat aux élections présidentielles, ce que je ne suis pas, je dirais, je n'ai qu'une partie à mon programme, qu'un point à mon programme, référendum d'initiative populaire pour vous renvoyer la décision à vous. Vous êtes les seuls habilités à prendre cette décision. C'est pas un ministre qui représente soi-disant le peuple, mais qui en fait fait partie d'une caste, qui aurait le droit de prendre ce genre de décision. Ce genre de décision, tous les abandons de souveraineté dont la France a souffert depuis 20 ans, se sont faits sans demander son avis au peuple. Et une fois qu'on l'a demandé une fois sous Sarkozy, pour tout ce Girac, le peuple a dit non. Et Sarkozy est arrivé 2 ans après, il a fait passer par la procédure parlementaire de ce qui était une forfaiture. Donc, grosso modo, ce que je veux dire, c'est que si on a un autre guignol, comme on en a eu depuis 30 ou 40 ans, et qu'il ne nous donne pas le référendum d'initiative populaire, je vais être très franc avec vous, on est foutu. Parce qu'on est gouverné par des. Faire des clampes, hein.
Il me semble que c'est 77% des Français qui voudraient avoir un référendum sur l'immigration, par exemple.
Mais c'est-à-dire, il faut leur donner le droit. Ce qu'il faut, c'est rendre l'ordre du jour aux Français. C'est-à-dire que c'est eux qui disent quel est l'ordre du jour. Et si la première des questions qu'ils posent, c'est un référendum sur l'immigration, c'est la première question. La deuxième qu'ils poseront, que les Français poseront, ce sera peut-être, je sais pas, un audit des dépenses de l'État.
Ça pourrait être très intéressant, ça.
Ben oui, parce que, écoutez, l'État aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. J'ai reçu ici Charles Pratt, vous savez, ce gars qui a fait un bouquin sur la fraude. Apparemment, il y aurait 53 milliards d'euros de fraude à la sécurité sociale. Il y aurait quelques millions de cartes de plus vitales qu'il y a de citoyens français, en incluant les enfants qui sont pas sur les cartes, qui sont sur les cartes vitales de leurs parents. Donc, bon, ce qui m'intéressait, c'est de savoir où vont ces 53 milliards et au profit de qui, quoi. Et on a bien vu dans la crise du Covid que les autorités de santé, il y en avait tant que vous en vouliez, mais il n'y en avait pas une qui prenait une bonne décision. Que c'est pas. Alors qu'en Suède, c'était un gars qui a dit non, on ne se confine pas, parce que c'était le responsable constitutionnel, c'était le chef de l'épidémiologie suédoise. Il a dit non, c'est une imbécilité de se confiner. Poum, terminé. Il y a un gars qui a pris la décision. Vous savez ce que disait Clemenceau? Il disait, pour prendre une décision, il faut être en nombre impair. Et trois, c'est trop. Voilà. Il faut retourner, il faut que les gars prennent des décisions, et si ça marche pas, eh ben on les fusille. Je veux dire, non, mais je veux dire par là, le rôle du décisionnaire, c'est que si ça marche pas, il saute. Il n'est pas là pour être promu. Par exemple, l'ancien ministre de la Santé, madame je ne sais plus quoi, elle a fait échec sur échec, elle a été promue à l'Organisation Mondiale de la Santé. Vous vous dites, mais normalement, elle aurait dû être virée.
Ça, c'est très étonnant, cette multiplicité des ministres qui, d'un coup, comme ça, sautent, et quelques mois plus tard, peut-être un an plus tard, grand maximum, on les revoit réapparaître autre part.
Au Conseil d'État, à l'OMS, à l'Organisation Mondiale de l'Agriculture, j'en sais rien, mais ils ont... Donc, c'est merveilleux. Il leur arrive jamais rien.
Puis, limite, c'est mieux pour eux parce que ils sont dans des postes moins exposés, donc ils ont moins de risques de faire des conneries.
Ils ne payent pas d'impôts parce que ce sont des fonctionnaires internationaux. Oui. Ils sont payés grassement.
Parfois, ils sont mieux payés que lorsqu'ils étaient
ministres. Ils sont mieux payés, surtout ils ne payent pas d'impôts. Et ensuite, quand ils sont dans une organisation internationale, ils bénéficient du statut de diplomate et ils ne peuvent plus être poursuivis tant qu'ils sont là.
Fantastique.
Ils ont monté des systèmes qui les avantagent beaucoup. Hein.
Là, on va s'exporter un petit peu, on va parler des États-Unis. Question extrêmement large. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Alors, je dirais plutôt à moyen terme, c'est-à-dire peut-être 20, 30, 40 ans.
Ça, c'est
l'avenir
long terme, hein. Je serai plus là.
Des États-Unis.
Les États-Unis, c'était un peu comme... Jérusalem sur la colline, en tout cas, c'est ce qu'il disait, vous savez, c'est-à-dire la cité sur la colline éclairée. Je vais vous faire... Moi, j'ai été toujours... j'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai... Sur 11 petits-enfants, je dois en avoir 9 qui ont la nationalité américaine. Donc, j'ai plutôt des sentiments favorables, et je les ai toujours eus. Depuis les années Clinton, peut-être les années Bush, le père, mais en tout cas certainement Clinton... Je suis persuadé, je ne suis pas du tout un complotiste, hein, je suis persuadé qu'une espèce de classe criminelle a pris le pouvoir aux États-Unis. Entre la CIA, les banques centrales, etc., il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas net. Et cette classe criminelle gère les États-Unis à son profit. Et ce que je vous dis, ça m'a été dit par un homme que j'aimais bien, qui était le président de la banque centrale américaine à Kansas, qui était ce qu'on appelle un « voting member ». De la réserve fédérale, donc, puisque il était le patron d'une des huit, je crois, il y en a sept ou huit, banque centrale américaine, enfin, réserve fédérale. Et je lui en discutais avec lui il y a 6 ou 7 ans, et il m'avait invité à un petit déjeuner, donc c'était très sympathique. Et il me dit, Charles, vous avez raison dans tout ce que vous dites, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point les États-Unis sont tombés sous la coupe d'une classe criminelle. Et que c'est eux qui mesurent, qui prennent les décisions. Et on l'a bien vu au moment des élections, et je vous donne un exemple qui est tout à fait extraordinaire, c'est que une semaine avant la fin de sa présidence, Trump a viré le ministre de la Défense. Mm-hmm. Je me suis dit, si on avait foutu une semaine avant, qu'est-ce que ça peut changer? Il avait donné des ordres pour que les troupes américaines quittent la Syrie et l'Afghanistan, et le ministre de la Défense ne les avait pas répercutés. Et maintenant, la première chose qu'a fait Biden, c'est renvoyer des troupes en Syrie et reculer un petit peu le départ d'Afghanistan. Donc, quand vous avez le président qui est en charge des intérêts supérieurs de la nation, donner un ordre de sortir d'un pays parce que lui veut sortir les États-Unis et toutes ces guerres sans fin, et que son ministre de la Défense refuse d'obéir à l'ordre, c'est vous dire où est le vrai pouvoir. C'est inquiétant, non ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. On a bien vu que tous les leviers, même y compris des leviers médiatiques, avaient été faits pour faire en sorte que l'Amérique devienne absolument ingouvernable pour les républicains ces 4 dernières années.
Absolument, mais surtout ce qui s'est passé qui m'a beaucoup surpris, c'est que Trump a été élu et il n'a jamais, en 4 ans, jamais réussi à reprendre le contrôle du ministère de la Justice, ce qui est à l'origine des poursuites. Donc le ministère de la Justice américain a poursuivi Trump au moins 2 fois, et chaque fois que Trump avait un ennemi qui avait fait une saloperie, il demandait au ministère de la Justice de faire une enquête, et il ne se passait rien. Donc, quand vous avez perdu le contrôle de l'initiative des poursuites, vous avez du mal à vous faire obéir. Hein, Donc, le drame de Trump, c'est qu'il a été trop légaliste.
Oui, quelque part, oui.
Mais en
Quelque
même temps,
part.
dès qu'il faisait un mouvement, tout le monde disait, c'est un dictateur, c'est épouvantable, c'est le nouvel Hitler. Donc. Mais la réalité, c'est que l'appareil d'État, maintenant aux États-Unis, est contrôlé, encore une fois, par une caste, un peu comme en France. Vous avez la même caste qui contrôle tout.
D'où on peut même se poser la question, du coup, est-ce que toute prise de pouvoir dans des mouvements, enfin dans des pays, pardon, aussi scellés, au point de vue de la classe dirigeante, doivent se faire d'un point de vue légal? Parce que, je veux dire,
Ça, c'est la vraie question, mais
on est
c'est
dans
le
des
vrai problème.
systèmes dont les règles sont faites justement pour nous empêcher d'arriver au
Enfin,
pouvoir.
elles ont été biaisées pour nous empêcher d'eux. Et maintenant, j'ai vu que les démocrates allaient peut-être essayer d'augmenter le nombre des juges à la Cour suprême. C'est-à-dire que d'habitude, il y a 9 juges à la Cour suprême depuis 150 ou 160 ans. Et là, comme ils ont un nombre de juges qui sont majoritairement plutôt conservateurs, eh bien, il pourrait être question qu'ils essayent d'en coller à 4 ou 3, d'en faire élire 4 ou 5 de plus, ou d'en nommer 4 ou 5 de plus, de façon à avoir une majorité démocrate à ce moment-là. Si vous voulez, s'ils contrôlent le Parlement, la Chambre basse, la Chambre haute, l'exécutif et le législatif, je crois que on est mal barré, quand même. La beauté des États-Unis, c'est que ça avait été organisé par les pères fondateurs, là, dans un système qui était à l'origine complètement bloqué. C'est-à-dire que la justice bloquait l'exécutif, qui lui-même bloquait le législatif. Donc, pour qu'on puisse faire quelque chose, il fallait vraiment que ce soit difficile. Et c'est pour ça que ce pays en est arrivé à dominer le monde. C'est que, dès le départ, les pères fondateurs avaient essayé de limiter la prise de position des fous. S'il y a un type qui est fou, bah, il est bloqué par ailleurs. Bah, là, si vous voulez, les fous sont en train de prendre le contrôle de l'asile, quoi. Et donc, je me dis, regarde ça, je me dis, bah, tiens, donc, en plus, avec l'aide de l'université, avec l'aide des journaux, avec l'aide des médias, avec l'aide de Google et tout ce que vous voulez, donc. Ça va être dur de trouver un endroit où vous serez libre, hein.
En effet. Aussi aux États-Unis, alors je ne sais plus exactement quand serait l'échéance, peut-être 2045, un truc comme ça. Vu qu'il y a des statistiques ethniques aux États-Unis, certains services de renseignement, du coup, essayent de voir quand sera le point de bascule où les blancs deviendront, enfin, seront à moins de 50% de la
Les blancs, c'est pas
population.
un problème, hein, parce que je peux vous assurer que, par exemple, certains, il est mort, mais certains des membres de la Cour suprême étaient d'origine hispanique. Donc, encore une fois, il faut comparer ça à l'Europe des années 20, où vous aviez eu des millions d'Italiens, des millions d'Espagnols qui étaient arrivés en France pour des raisons et qui se sont intégrés sans aucune difficulté. Donc, mon expérience des hispaniques aux États-Unis, c'est que ils s'appuient sur les démocrates pour rentrer aux États-Unis. Et puis, quand ils arrivent aux États-Unis, comme en général ils sont très catholiques, très chrétiens, hop, ils se mettent à voter républicain, quoi. Donc, m'en contrefous que les gens soient blancs, marrons, rouges foncés ou n'importe quoi, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'ils ont une base civilisationnelle, religieuse qui permet de s'intégrer sans difficulté? La réponse pour ceux qui arrivent d'Amérique du Sud est oui.
D'accord.
Donc je ne me fais aucun souci là-dessus.
Ok. Aussi, autre fait divers de cette semaine, alors là on revient en France. Il y a une femme qui s'est adressée l'autre jour à Montpellier à Emmanuel Macron en lui disant que son fils lui avait demandé si le prénom Pierre existait vraiment. Qu'est-ce que ça dit de notre pays aujourd'hui?
Mais ça dit quelque chose de. D'abord, j'avais fait un article il y a très longtemps, à la suite d'un livre, je crois, qui avait été publié par. Je ne sais plus si c'était Chaunu ou Sauvy, qui s'appelait La Peste Blanche, dans lequel cet homme, c'était il y a 30 ans, le livre doit être disponible encore, expliquait que compte tenu de la démographie, de l'écroulement de la fertilité des femmes européennes, et de la fertilité des femmes africaines, en 2020, l'Afrique se déverserait sur l'Europe. C'est pas difficile, je crois qu'en 1940, il y avait 200 millions de personnes en Afrique et il y en avait 500, 600 millions en Europe. Maintenant, il y en a 500 millions en Europe et il y en a plusieurs milliards en Afrique. Donc, il y a comme un loup, quoi. Et nous, on fait plus d'enfants et on vieillit à toute allure. Donc, il y a un problème démographique gigantesque qui se pose. Et ce que cette femme disait à Montpellier, c'est que, il n'y avait plus un gamin dans les écoles qui était d'origine européenne. Déjà, dans une ville comme Anvers, la majorité des élèves, à partir de, jusqu'à la sixième, sont d'origine maghrébine. Alors, j'ai rien contre les maghrébins, bien entendu. Mais ça n'est pas la même, c'est pas des bataves, quoi. C'est pas la même civilisation, c'est pas la même façon de penser, c'est pas la même. Donc voilà, c'est tout. Ça veut dire que notre civilisation va changer. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'en 1900, 2040, 2050, si vous voulez, les musulmans sont majoritaires en France. Moi, je le connaîtrai pas, mais vous aussi.
Je sais pas quand ça arrivera, mais c'est sûr qu'en tout cas...
Là, vous avez qu'à faire des calculs statistiques, vous savez, c'est que des exponentiels, les calculs statistiques de démographie. Si chaque femme a 4 enfants et si chaque Française en a un, vous voyez très bien. Chaque enfant, il y a par 4 grands-parents, maintenant en Italie, 4 grands-parents, un enfant. C'est-à-dire qu'il y a 4 grands-parents et ils n'ont qu'un petit enfant. Ça veut dire que la décroissance de la population est absolument gigantesque à l'horizon de 50 ans. C'est absolument gigantesque. C'est un beau pays, l'Italie.
Ouais. Mais oui, le taux de natalité en Italie est vraiment
1,2,
très bas.
1,2-1,3 comme en Allemagne. Il n'y a pas à choisir aucune femme en Allemagne qui a fait des études supérieures qui a des enfants. Si elle...
Ça aussi, je me demande si en Italie, c'est pas en train de remonter légèrement, cependant.
C'est
bon,
possible.
C'est pas...
Alors là où ils font des efforts pour que ça remonte, qu'ils subventionnent comme des malades les familles, c'est en Hongrie, c'est en Pologne, c'est en Russie. Là, ils filent des subventions aux enfants. C'est-à-dire, je crois que si une femme a 3 enfants, on lui file une maison.
C'est pas mal.
Bah, ils vont les loger, les petits canards.
Et vous êtes plutôt favorable à ça?
Ben, écoutez, j'en sais rien, j'ai eu 4 enfants, donc je plaide coupable, mais je n'ai jamais connu un seul parent qui s'est plaint à moi, en une longue vie, d'avoir eu trop d'enfants. J'en ai connu plein qui se sont plaints de ne pas en avoir eu assez, d'en avoir eu qu'un, et c'était pas génial. Donc, si vous voulez, moi, je crois que le... Si je devais donner une définition des gens de la droite, puisque vous en cherchez une, c'est ceux pour lesquels la famille est essentielle. Le type de droite, c'est celui qui pense que la famille est essentielle, c'est tout. Donc je dois être de droite.
Moi, je le pense.
Mais vous êtes de droite aussi.
Très bien. Alors, sujet un petit peu plus léger... On nous a annoncé, je crois, la rouverture des terrasses de café vers la mi-mai. Mmh. Alors, est-ce que vous pensez que c'est crédible ou est-ce que c'est encore un truc qu'on va repousser
Je n'ai jamais compris pourquoi, pour commencer, on nous avait enfermés. Parce que je peux vous donner quelques chiffres. Le Covid tue à peu près 3 personnes sur 1000 en dehors des EHPAD. Là, hein. L'âge médian du Covid, de la mort... C'est 84 ans avec des pathologies en plus, ou les obésités, diabète, etc. Mon frère qui vit en Suède, on leur a dit, bon, ben, les petits vieux, c'est-à-dire lui et moi, quoi, vous restez chez vous, et puis tout le monde, à part ça, vous faites ce que vous voulez, sauf on ne fait pas de grands rassemblements, on ne va plus dans les stades, mais enfin bon. Donc rien à fermer en Suède, rien à fermer. Et ils ont moins de morts que nous aujourd'hui, en pourcentage de la population, oui. Et aujourd'hui, si vous regardez les statistiques telles que publiées par l'INSEE, la mortalité des gens de moins de 60 ans en France est au plus bas de tous les temps. Donc je regarde et je me dis, mais pourquoi ils nous ont enfermés, ces corneaux? Pourquoi ils nous ont enfermés? Qu'est-ce qu'il y avait à faire? C'était une espèce de grosse grippe qui en plus tuait que les vieux en les abrégeant d'un an ou deux, quoi. Ce qui est bien triste, ma pauvre dame, mais enfin... Donc je ne comprends pas. À ce jour, je ne comprends pas exactement d'où vient cette immense panique. Et il y a un nouveau virus, et c'est le... Vous savez, la connerie a fait beaucoup plus de morts dans l'histoire que les virus. Hein. Je me demande combien de gens vont mourir de. Par exemple, aux États-Unis, maintenant, ils se tirent comme des lapins dans la rue. Je ne sais pas combien de gens qui ont été flingués par des fous avec des armes. C'est une imbécilité. Mais la plupart de ces gens-là étaient enfermés depuis 6 mois. Au bout de 6 mois, quand vous êtes enfermé tout seul, vous devenez zingue.
Ouais, non, je sais pas exactement pourquoi on nous a autant enfermés, parce que je trouve que à l'échelle de l'Europe, on est quand même le pays, je crois, hein, qui a subi les restrictions les plus dures. Alors récemment, il y avait quand même le Royaume-Uni qui avait durci un petit peu les règles pendant quelques mois.
Mais encore une fois, aux États-Unis, la beauté, c'est que c'est une structure décentralisée. Donc vous avez des États qui ont enfermé et des États où les gens sont restés libres, comme en Floride, au Texas. Eh ben, les États qui sont restés libres ont eu beaucoup moins de cas et de morts que les États qui ont enfermé. Parce que quand vous êtes enfermé avec votre famille, s'il y en a un qui l'attrape, clac, toute la famille passe. Tandis que si vous vous baladez dans les champs parce que vous pouvez aller où vous voulez et tout, ben, il y a beaucoup moins. Donc apparemment, l'air libre est très mauvais contre le Covid. Et qu'est-ce qu'on fait? On nous enferme à l'intérieur. C'est pas croyable. Ce niveau d'incompétence dépasse l'entendement.
Après, aux États-Unis, il y a eu un petit peu une politisation du Covid, c'est-à-dire que ceux qui voulaient globalement rester libres étaient plus penchants républicains, ceux qui voulaient plutôt s'enfermer
Absolument.
étaient
Et où il y
plus
a eu
penchants
le plus de morts?
démocrates. Du coup,
C'est
comme vous
chez les
l'avez dit,
démocrates.
c'est chez les démocrates.
Et donc ça veut dire que M. Macron est un gentil démocrate américain. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit hier quand il a dit qu'il était en faveur de la déconstruction de la France. Non, mais le type. Après, on a la République qui parle de déconstruire le pays. Non mais. J'ai du mal, hein.
Oui, bah c'est que globalement, une force qui est adversaire, voire ennemie du pays, est à la tête de ce même
Mais
pays.
je crois que c'est la première fois dans l'histoire de France qu'on a un roi de France qui n'aime pas son pays. C'est tout à fait nouveau. Tout à fait
Bon,
nouveau.
on peut conclure sur ça, je pense.
Ben, il faut conclure. J'espère qu'il y aura d'autres présidents de la République après Macron. Mais je me fais beaucoup de soucis parce que, vous savez, j'ai toujours dit que les présidents de la République en Europe, en France, bon, ça a commencé avec De Gaulle, ce qui allait, puis ensuite Pompidou, ce qui était bien. Giscard d'Estaing, ça commençait déjà à baisser fortement. Qualité, puis ensuite on a eu Mitterrand, bon, et puis derrière on a eu Chirac, ça continue à s'effondrer, puis on a eu Sarko, ben, vraiment, puis alors, on est arrivé à Hollande, et quand on est arrivé à Hollande, je me suis dit, chouette, on peut pas aller plus bas.
Ouais.
Eh ben si, on pouvait, on a trouvé Macron.
Ben on verra ce qu'on pourra avoir en 2022.
Ben oui, mais je crains le pire.
Ben y a de quoi, ouais.
Ben merci beaucoup.
Ben merci beaucoup.